Chers auditeurs, après le rétablissement de l'unité de l'Église au Concile de Constance et l'arrivée à Bayonne de Guillaume de Laborde comme seul évêque du diocèse, comment s'organise et vit l'Église du Labourg et de Basse-Navarre au XVe siècle? Nous avons parlé la dernière fois des évêques qui l'ont dirigé. Pour conseiller et aider le chef du diocèse, il y a toujours le chapitre des chanoines. Il faudra une intervention du pape Eugène IV en 1438 pour dirimer des conflits qui avaient surgi en son sein, en particulier sur le nombre des chanoines. Désormais, et jusqu'à la Révolution, le chapitre de Bayonne comprendra 12 chanoines. Mais divisé pendant le schisme, il n'a eu alors qu'un rôle très réduit. Depuis 1451, date du rattachement du Labourg à la couronne de France, ses droits dans la nomination de l'évêque de Bayonne sont contestés à la fois par le pape et par le roi dans le cadre de la pragmatique sanction. Un sujet de friction avec l'évêque, c'est la nomination du chapelain majeur, c'est-à-dire concrètement celle du curé de Bayonne. Il était entendu jusque-là que cette nomination revenait conjointement à l'évêque et aux chanoines. L'évêque Jean de la Barrière, qui avait connu pas mal de difficultés pour sa propre désignation, s'avisa de ne pas respecter la tradition. De sa propre autorité, sans en référer au chapitre, il nomma chapelain majeur un prébendier, d'où de véhémentes protestations des chanoines. Une transaction adoptée par les deux parties mit fin au conflit. Les chanoines acceptaient pour cette fois le choix de l'évêque. Mais désormais, celui-ci devait choisir le chapelain majeur parmi les chanoines. Dans l'organisation administrative du diocèse, le personnage important, c'est l'archidiacre. Second de l'évêque, on peut dire qu'il était devenu un second évêque avec des prérogatives presque équivalentes. Mais quand arrive le XVe siècle, son rôle a beaucoup diminué et il va pratiquement disparaître au profit d'un autre personnage promis, lui, un brillant avenir, le vicaire général. Celui-ci semble avoir été inventé à cette époque par les évêques pour faire pièce à l'archidiacre et à sa toute-puissance. Le vicaire général devient alors le bras droit de l'évêque. Quand celui-ci s'absente, il lui délègue la juridiction épiscopale. Ainsi, nous trouvons trace d'un vicaire général à Bayonne en 1427 avec un certain Garcia Arnaud d'Istulitz. Quelques années plus tard, vers la fin du siècle, Bertrand de Lahaye sera vicaire général avant d'être nommé par les chanoines évêque de Bayonne en 1504. Un autre personnage qui émerge à son tour, à mesure que se retire l'archidiacre, c'est l'archiprêtre. Il existe, à vrai dire, depuis longtemps, mais à l'ombre de l'archidiacre. Si ce dernier était chargé de l'administration du personnel et du temporel, l'archiprêtre, lui, s'occupait du rituel, c'est-à-dire des cérémonies du culte. Il remplaçait l'évêque pour toute action proprement sacerdotale. Il joue un rôle de suppléance et y ajoute celui d'intermédiaire entre l'évêque et les prêtres de sa circonscription. Il transmet les ordres de l'évêque, assure la publication de ses lettres et sans doute leur traduction en basque et en gascon. Tous les ans, il visite la paroisse et les paroisses de son ressort, donne les directives qui s'imposent pour le culte et réprime les abus qu'il constate. Il joue en fait le rôle des doyens actuels. Et à mesure que s'éclipse l'archidiacre, le champ de son activité s'étend. Et très vite, comme l'était celui de l'archidiacre, son action sera liée à un pays, à une région du diocèse. Ainsi, Garcias Arnaud d'Istulitz, qui se présente, nous l'avons dit, comme vicaire général, ajoute à ce titre celui d'archiprêtre d'Arbérou. Grâce à un document rédigé pour la convocation des synodes diocésains au début du XVIe siècle, nous connaissons l'organisation du diocèse de Bayonne. À cette époque, il comprenait 7 archiprêtrés, autant que de régions ou de pays, dont il emprunte d'ailleurs le nom. L'archiprêtré du Labourg, le plus grand, comprenait 31 paroisses, celui de Cise-Baïgorry, 27, celui d'Arbérou, 8. En Haute-Navarre, l'archiprêtré du Bastan comptait 12 paroisses, celui de Lérin, 9, celui des Cinq-Vallées, le plus petit, 4, et au Guipuscoa, l'archiprêtré de Fontarabie comprenait 6 paroisses, au total donc 97 paroisses. Le document que nous venons de citer lie à l'archiprêtré l'officialité, c'est-à-dire le tribunal ecclésiastique qui juge les cas que les fidèles soumettent au jugement de l'évêque. Celui-ci avait-il un tribunal dans chacune de ses circonscriptions ? Il est vrai que la configuration politique de son diocèse l'obligeait à décentraliser son officialité. Les Navarrais n'admettaient pas d'être jugés, même aux religieux, en dehors du royaume de Navarre, à Bayonne, à l'étranger, comme ils disaient. À considérer le nombre de paroisses que comptent les 7 archiprêtrés, on s'aperçoit de leur différence en étendue entre le nord et le sud, 66 paroisses au nord des Pyrénées et 31 à peine au sud. Les différences également entre ces archiprêtrés. Le Labourg avec 31 paroisses, les Cinq-Vallées avec à peine 4. Une autre constatation s'impose encore. Durant les 4 siècles qui viennent de s'écouler, les archiprêtrés de Haute-Navarre et du Guipuscoa apparaissent très peu dans la vie du diocèse. Seul le Bastan reçoit une mention pour avoir été frappé d'interdit pendant 30 ans au XIIe siècle. Ces archiprêtrés du Sud n'avaient avec l'Église mère que des liens assez distendus et il est probable qu'ils se tournaient plus facilement vers Pampelune que vers Bayonne, les Pyrénées constituant un obstacle non négligeable. Et cette situation aura des conséquences néfastes et facilitera une amputation du diocèse au siècle suivant. Nous le verrons quand nous entreprendrons de l'histoire du XVIe siècle. Et la prochaine fois, c'est la vie chrétienne de notre diocèse au XVe siècle qui retiendra notre attention.